Chapitre 51. Il survolait le flot des forêts. Avec la pâleur de l'aube, les cimes des arbres ressemblaient à une mer en pleine houle, une mer noire. Ludivine guettait le paysage, le casque sur les oreilles, un peu groggy à cause du voyage. Presque 2 heures et demie d'hélicoptère, un court sommeil de plomb à coups de tranquillisant sur le sofa dans le salon chez Seignon, et au réveil, le souvenir de toute la violence de la veille. Chacun des 15 coups de feu résonnait encore dans la tête de la jeune femme. Il n'avait pas retrouvé trace de Lotte Andrea dans tout le pavillon. En revanche, le camion était garé un peu plus loin, sur un parking. À l'intérieur, Cyril Capucin gardait précieusement un sac à dos, avec de quoi faire des liens, une arme à feu, 2 couteaux et un scalpel. Et surtout, un masque monstrueux. Il avait été fait par le tueur lui-même, à n'en pas douter, sur un châssis de masque d'orthodontie, renforcé, 2 mâchoires coulées dans de la résine, qui s'emboîtaient parfaitement, et pouvaient être actionnées à l'aide de 2 protège-dents, dans lesquelles on pouvait mordre. Une gueule pleine de crocs, sculptée pour faire peur, construite pour faire mal. Car le tueur y avait incorporé un ingénieux dispositif de ressort qui permettait de décupler la pression de la morsure. Il suffisait de mordre fort dans le protège-dent et les crocs se resserraient d'un coup. Le tueur avait revêtu son masque pour dévorer ses victimes, pour se dessiner un visage terrifiant, avec une bouche proéminente, immense, qui claquait comme un piège à loup. Quel fantasme tordu emportait-il avec lui dans la tombe? Quelle enfance avait pu fabriquer un esprit aussi déséquilibré? Dieter Ferry avait réussi son coup. Non seulement il avait poussé les membres de sa communauté à s'accepter tels qu'ils étaient, avec leurs vices et leurs pulsions dangereuses, mais il avait aussi engendré des monstres pires encore. Les pales de l'écureuil se mirent à vrombir encore plus fort, et soudain l'appareil manœuvra, opérant un cercle rapide pour fondre sur sa zone d'atterrissage. La voix de Seignon, transformée par le micro dans lequel il parlait, termina de tirer Ludivine de ses songes.
« Dans 2 heures, toute cette histoire sera terminée !»
La jeune femme eut un rictus ironique. Ils allaient boucler l'instigateur de cette vaste boucherie le matin même où Alexis était enterré. C'était presque cruel. Elle regrettait de ne pas y être, et, en même temps, en éprouvait presque du soulagement. C'était un devoir qui lui pesait trop. Elle n'était pas sûre d'être en état de dire adieu à la dépouille de son dernier amant, devant toute sa famille. Viendrait un moment pour cela, dans l'intimité, de la discrétion, de la solitude. Le plus important pour qu'il repose en terre, c'était que les comptes soient soldés. Victor Mag et Cyril Capucin étaient morts. Ils avaient payé. La loi du talion. D'autres que Ludivine auraient voulu les voir comparaître devant des assises pour qu'ils s'expliquent. Mais elle n'était pas aussi naïve. Elle savait les tueurs en série manipulateurs, secrets. Ils n'auraient rien dit. Rien qui puisse aider à comprendre. Car de toute façon, il n'y avait rien à comprendre. La mort comme obsession. Sociopathe. Endoctrinés pour ne jamais se rendre, préféraient mourir. Ils avaient gentiment obéi à leur maître, à Gerthe Brussin, cet enfant parfait. Les portes latérales de l'hélicoptère s'ouvrirent, et le vent glacial de l'aube s'engouffra. Ludivine jaillit avec les autres gendarmes, pendant que 2 autres écureuils approchaient. Les breaks de la gendarmerie locale les prirent en charge, et foncèrent sur les petites routes de campagne. Il y avait quelques collines autour d'eux, couvertes de vignobles d'Armagnac, puis des forêts, un château au loin, en partie dissimulé derrière de grands pommiers, et des champs en jachère. Les voitures filaient en silence, sans gyrophares ni sirènes, ne croisant presque aucun véhicule. À l'intérieur, les membres du GIGN terminaient de se préparer. Chargeurs enclenchés, matériel de protection bien ajusté, casque vissé sur le crâne. Seignon tendit à Ludivine son gilet pare-balles, avec le logo « Gendarmerie » dans le dos. et elle l'enfila. La pression montait.
« 3 minutes !»
aboya l'homme à côté du chauffeur. Ils quittèrent la petite route pour s'engager sur un chemin de terre, sans aucune indication. Le véhicule cahotait en roulant le plus vite possible, suivi par 5 autres breaks.
« 1 minute !»
L'homme à côté de Ludivine serra les scratchs de ses gants et posa son MP5 contre lui. Ses yeux, sous la cagoule noire, croisèrent ceux de la gendarme. Il était concentré, résolu. Elle avait vu son visage un peu plus tôt dans l'hélicoptère, avant qu'il enfile sa cagoule, et déjà, elle l'avait oublié. Il n'était plus que 2 yeux marrons qui la transperçaient de leur détermination. Soudain, ils pilèrent, et les portes s'ouvrirent pour laisser les militaires s'extraire des véhicules. Ils se regroupèrent, et dès qu'ils furent prêts, se précipitèrent vers Pestilence. Le hameau était constitué de 5 bâtiments en pierre. 2 vieilles fermes coincées dans la cuvette de collines boisées. Un endroit reculé, avec sa décharge couverte de lierre, son antique camion Renault Goélette rouillé, et ses montagnes de gravats entassées dans tous les coins possibles. Tuiles, poutres vermoulues, pierres de taille moussue. Ludivine voulut s'avancer, mais la main de Seignon la retint.
« On reste en arrière, » lui rappela-t-il. « Laisse faire les pros. »
Les hommes du GIGN traversèrent ce qui servait de cour, entre les longères, et ils firent sauter les portes pour entrer dans les lieux. Ils crièrent « gendarmerie » en s'engouffrant, armes au poing, 3 groupes, en même temps, dans 3 des maisons. Les secondes s'égrenèrent, éternelles. Un des groupes ressortit pour investir une grange. Le ciel blanchissait peu à peu à l'est, soulignant la rosée du matin sur les branches grises. De l'autre côté du hameau, un coup de feu éclata, lourd. Un coup de carabine. Seignon, Aprican et 2 autres officiers restés en arrière tressaillirent. Ludivine s'attendit à entendre la réplique crépitante des MP5, mais il n'y eut que des cris secs, des ordres. La radio d'un des officiers cracha, et le rapport tomba.
« Un suspect interpellé, » informa-t-il Aprican. « Il a fait usage de son arme et personne n'est touché. Ils l'ont immobilisé. »
Peu à peu, les lumières s'allumaient dans le hameau, au fil des pièces sécurisées par le GIGN. Ludivine s'impatientait. Elle voulait voir Brustin, contempler le sous-fifre zélé de Dieter Ferry. Au fur et à mesure de l'exploration, la radio délivrait ses comptes rendus. Pestilence était vide. Il n'y avait que Brustin. Cela n'étonnait pas la gendarme. Ferry était mort. Oda Lechamp aussi, depuis 6 ans. Et la petite amie de Gert Brustin devait avoir quitté le navire depuis très longtemps. Un homme du GIGN fit un signe, et Aprican s'engagea dans le hameau, avec sa garde rapprochée, aussitôt suivi par Seignon et Ludivine. Ils traversèrent une cuisine-salon sale à vomir, pour trouver le suspect en slip et t-shirt, assis, humilié, sur son lit, les mains menottées dans le dos. Ludivine s'immobilisa sur le seuil. Il avait à peine 50 ans, les cheveux gris en pagaille, les joues rouges d'alcool. Un ventre obscène qui lui tombait sur les cuisses. Ce type n'était pas né en 1944.
Ce n'est pas Gert Brustin, dit-elle en approchant.
L'homme releva les yeux vers elle, une lueur étrange dans le regard.
Non, je ne suis pas Gert, confirma-t-il.
Vous vous appelez comment ? Il hésitait.
On finira tôt ou tard par le savoir,
menaça Seignon. Avec beaucoup plus d'énergie et de colère. Jean-Michel, Montisson. Ludivine secoua la tête. Où est Brustin ?
Je ne sais pas.
Elle fit 2 pas en avant, menaçante, et son collègue s'interposa d'un coup, juste en faisant un pas de côté. Aprican s'était raidi.
On t'a demandé où est Brustin ?
Répéta Seignon, avec une voix plus posée, presque plus inquiétante.
Je vous jure que je ne sais pas. Il est parti cet été. Il est revenu 2 jours en septembre et puis c'est tout.
L'homme était impressionné. Il avait peur. Ludivine jura et sortit de la pièce. Brustin leur filait entre les doigts.
Ils allaient le perdre.
Un des membres du GIGN arriva au pas de course, à peine essoufflé.
« Mon colonel, » dit-il, « faut que vous veniez. »«
Vous l'avez ?» L'homme fit un non timide de la tête.
« Alors quoi ?»«
C'est le sous-sol, mon colonel. »«
Eh bien, qu'est-ce qu'il y a au sous-sol ? Parlez, nom de Dieu !»«
C'est pas une ferme ici. C'est un abattoir. » Le visage d'Aprican se congestionna.
« Je crois que vous n'avez jamais vu un truc pareil, » ajouta le gendarme.
« À vrai dire, personne n'a jamais vu ça. »